be seen. C'est là que tout se crée, dans la piscine.
Radio G 101.5 FM.
Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Exterminate! Exterminate! Exterminate!
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Je vous laisse avec les auteurs de Nock qui m'ont gentiment accordé cette interview avec un jeu dark, mais qui, à mon avis, vaut vraiment son pesant de mystère et une conception très intéressante. C'est un jeu qui est disponible auprès de Cette Messe, qui est une maison d'édition bâtisseur d'univers.
Alors, je suis Cédric Chaillol. Je suis surtout joueur depuis quelques décennies maintenant. Je suis venu au jeu de rôle à une époque où c'était encore relativement confidentiel, fin des années 80, début 90. J'ai beaucoup joué des jeux de l'époque, quoi, des Star Wars et des Cthulhu, enfin vraiment des grosses valeurs très connues. Puis petit à petit, ça s'est mué vers de l'écriture. Et à partir, j'irais des années 2000-2010, j'ai fait un petit peu plus de production. Et là, on s'est lancé, récemment, depuis 2 ans, vraiment dans une structure qui fait de l'édition et qui porte des projets qui ont déjà une histoire et puis qui porte également de nouveaux projets, dont un qu'on présente ici à Octogone, qui est Notes, notre nouveau jeu de rôle.
Moi, c'est Michael Charias. Bon, comment je suis venu au jeu de rôle en me trompant, parce que je suis dans une boutique de jeux. On commençait les figurines, j'avais 11 ans, et puis j'ai acheté Vampire en pensant que c'était ce que j'attendais, puis finalement non, et il s'avérait que c'était mieux. Et donc du coup, c'est depuis une trentaine d'années maintenant, beaucoup d'expérience en tant que maître de jeu essentiellement. Et assez naturellement, ça m'a conduit à la création de jeux. J'ai commencé ça à 15 ans. Je pense que je commençais déjà à bricoler des choses. déjà. Et voilà, et donc petit à petit, ça m'a conduit à avoir un premier projet sélectionné sur un concours de jeux francophones qui s'appelait, qui était organisé par la boîte à Polpette à l'époque, l'aventure dans le monde intérieur, qui a remporté le prix, qui m'a mis le pied à l'étrier sur le développement. C'était en 2005-2006, peut-être 2000, ouais, 2005-2006. Et Aventure du monde intérieur a connu une seconde édition chez les Ludopathes. D'autres projets en parallèle. Et puis finalement, effectivement, il y a deux ans, on a décidé avec des copains que j'avais rencontrés sur ce chemin-là, éditorial, de monter notre propre structure parce qu'on avait beaucoup de projets et des envies de passer très rapidement de l'idée au produit. Bon, mais il s'avère que le chemin de l'édition et de la construction pro est quand même long, donc ça fait deux ans qu'on est sur le développement de notre bébé qu'on présente effectivement cette année sur Octogone, Notes.
Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la genèse de ce jeu ?
Ce jeu, il a été, donc il date de l'époque, je crois qu'il est antérieur à Aventure dans le monde intérieur. C'est la première incarnation de Notes, s'appelait Blackened à l'époque, c'était un jeu de rôle amateur en 2001, 2 ou 3, quelque chose comme ça. Donc bientôt une vingtaine d'années, il a 18 ans. Il faut que j'y achète une gourmette. C'était une première édition qui avait connu une sorte de petit succès à l'échelle des jeux de rôle amateurs de l'époque, sur les forums, sur des choses. Il avait connu un premier supplément sur la ville de Prague qui s'appelait Notes. Et donc suite à ça, une deuxième édition avait été composée en vue d'édition. J'avais été contacté par un éditeur que je ne citerai pas, mais donc ça n'avait pas abouti. Mais le travail avait déjà été largement embrayé pour une nouvelle édition qui corrigeait des trucs que j'aimais pas sur la première, sur Blackened. Et après, donc, effectivement, quand on s'est décidé à créer Notes en version chez cette messe, on n'est pas parti d'une feuille blanche, mais on a énormément développé et repensé beaucoup d'aspects. Et le produit aujourd'hui, l'univers et les règles sont à 30% ce que c'était avant, et tout le reste a été vraiment recomposé pour le mieux, j'espère. J'en doute pas d'ailleurs.
Alors c'est aussi un jeu qui a fait l'objet d'un financement participatif l'an dernier, et donc on est arrivé en pleine période Covid. On a eu la chance aussi d'avoir une communauté qui du fait quelque part du confinement, s'est agrégée autour du jeu par les Actual Play, par la diffusion en ligne de leurs parties. Parce qu'on avait mis à disposition un kit d'introduction qui faisait environ une centaine de pages, qui était gratuit, et qui permettait de découvrir de manière relativement approfondie le contexte, les enjeux, les règles. On avait des personnages pré-tirés. Bon, en gros, on pouvait vraiment avoir une première expérience de ce jeu, et puis de montrer ses potentialités, sachant que c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit, c'était un scénario qui s'inscrit dans une campagne qui se développe, qui est la campagne officielle. Et voilà, donc maintenant, ça c'est un kit d'introduction qu'on a mis à jour. Maintenant, il faut environ 140 pages, il est toujours dispo gratuitement. Et c'était vraiment l'appel, c'était notre manière de montrer. Nous, on sortait de nulle part. Bon, Mickaël a fait Aventure dans le monde intérieur, qui a une vie éditoriale très claire. Elwin Charpentier, qui avec nous avait fait Eterne, moi j'avais fait Kemi. Mais autour de ce projet-là, on voulait vraiment une identité forte, et on voulait vraiment démontrer. Vu qu'en tant que structure, cette messe n'était pas connue, on voulait montrer d'emblée ce qu'on pouvait présenter. Donc il y avait ce kit-là, et ça a été porté. Et le financement, du coup, a été aussi soutenu à la fois par ce kit et puis par la communauté de joueurs qui ont montré ce à quoi ça ressemblait. On a la table du quarantenaire, la rôlisterie, le Capharnaüm qui ont joué vraiment activement à ce jeu avant même qu'il soit soumis au financement. Et depuis, le financement s'est bien passé, et là on est en train de finaliser la prod, je dirais un peu plus d'un an après.
Financement participatif, quelles sont les complexités ? Est-ce que c'est pas hyper stressant de se dire, tiens, peut-être que le jeu sortira pas si ça marche pas ?
Il faut y aller sans le doute, il faut y aller avec l'intention de réussir, il faut mettre les moyens en se disant que ça va passer. Enfin, en tout cas, ça a été de notre logique. Quand on a développé un kit de 150 pages illustré, entièrement maquetté, moi j'ai jamais envisagé le fait que ça ne puisse pas marcher. Je savais que ça pouvait marcher, et c'était pas de l'arrogance de le dire. C'est juste de dire, si on se met dans la position d'envisager qu'on peut échouer, on n'y va pas. Il faut y aller sans peur. Donc oui, on y allait avec au fond de la tête l'idée que ça pourrait être un échec, et avec l'intention de maîtriser les variables et de tout donner pour que ça ne le soit pas. Voilà. Je peux pas mieux dire. Et puis après, il y a une approche très simple. On a essayé de communiquer très rapidement. On a essayé de communiquer, et très rapidement, on a été rassuré par la présence et la gentillesse et l'investissement d'un embryon de communauté qui s'est constitué. Donc Cédric a cité l'étape d'Actual Play qui ont porté la lumière dans la nuit de notes. C'était le meilleur élément pour nous galvaniser. Enfin, chaque jour, on y revenait avec la joie et l'énergie que nous portaient ces gens-là. Et c'est le meilleur moteur. Enfin, pour moi, ça a été vraiment un énorme moteur.
Concernant le process, il y avait aussi, je pense, la volonté de ne pas avoir d'entre-deux, à savoir diffuser un Word ou quelque chose de sommaire en disant « Regardez à quoi l'idée, ça peut ressembler. » Même si c'était... En fait, on a vraiment fait un pari avec cet investissement, avec ce kit, en disant « C'est potentiellement un produit fini, quoi. C'est rédigé, c'est mis en forme. Les illustrateurs avaient déjà été sollicités pour faire un produit gratuit. Donc, à partir de là, il y avait une prise de risque. Mais on voulait adresser aux joueuses, aux joueurs, un produit qui disait, voilà, en vrai, c'est à ça qu'il faut vous attendre. Et ça sera beaucoup plus développé dans le livre de base. Mais il n'y avait pas vraiment de notion d'alpha ou de bêta ou de choses un peu intermédiaires. En fait, on voulait vraiment montrer tout de suite... On voulait pas discuter ni pérorer sur ce qu'on pouvait proposer, sur les intentions. On dit... Prenez ça, faites-vous un avis. Et si c'est OK, eh bien, il y a le financement peu de temps après, on continue, et c'est là qu'on en est maintenant.
Le kit en lui-même peut servir... les gens peuvent se satisfaire juste du kit ?
Alors, se satisfaire pour jouer sur le temps. Alors, très concrètement, le groupe d'Actual Play, la Rollistory, a mis 14 séances pour venir à bout du scénario du kit. Le kit propose les règles, le cœur des règles en entier, pas la création de personnages, pas le développement, pas certaines subtilités, mais le gros des règles, et présente de façon succincte le contexte. On nous a beaucoup averti quand on l'a sorti que c'était trop et que ça risquait effectivement de dissuader les gens de poursuivre l'aventure, et qu'on grillait toutes nos cartouches avec ce kit. Je pense qu'avec le livre de base qu'on a maintenant livré en PDF et qu'on montre aujourd'hui, les gens peuvent constater qu'on en avait encore beaucoup sous la semelle au niveau du niveau de détail, et notamment toute la partie occulte. Alors la partie sur la Terre était vraiment pouvait être encore bien développée, et le kit ne montrait pas tout, loin de là. Et surtout toute la partie occulte, les secrets de ce qui se passe réellement dans cet univers-là, était très peu abordée dans le kit. Et c'est une facette qui aujourd'hui... On nous reproche un petit peu de ne pas avoir assez évoqué ce point-là, parce que des gens le trouvent très intéressant, et que, du coup, s'ils avaient su que c'était ça, ils auraient pledgé plus. Donc, j'ai oublié la question, mais je pense que la réponse est bien.
Oui, moi aussi.
Du coup, de quoi ça parle, Notes ?
Oui.
Alors, Notes, ça parle d'un artefact, d'un objet énorme qui sort du fin fond de l'espace et du temps, et qui vient engloutir la Terre, et qui l'enferme entièrement, et qui remplace donc, du coup, le ciel, et qui est depuis maintenant des temps immémoriaux, enfin disons, on ne sait plus depuis combien de temps l'artefact est là, tient lieu de ciel et d'étoiles. D'énormes pointes en sont sorties, sont enfoncées dans la Terre, et c'était le début d'un nouvel âge. Évidemment, cet objet n'est pas joyeux. C'est une vieille machinerie un peu hantée et très sinistre, dont les manifestations sur Terre sont aujourd'hui vénérées par le nouvel ordre établi qui a géré le monde après l'apocalypse. C'est un monde qui est dans une apocalypse permanente. En gros, une administration totalitaire a pris les rênes de l'humanité après l'arrivée de l'artefact. L'humanité s'est enfermée, disons que s'est mise en sécurité à l'intérieur de cités-états fortifiées, qui s'appellent des blocs, Le nouvel ordre établi a imposé à l'humanité la vénération de l'artefact, qui est considéré aujourd'hui comme une sorte de nouveau dieu. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans une société donc totalement pas joyeuse. Un autre élément important, c'est que l'électricité est morte. L'artefact a entraîné la fin du fonctionnement des machines électriques. Donc il y a un bond technologique en arrière. Et donc nous sommes dans une société dystopique totale, un petit peu dieselpunk, très sinistre. Et les héros dans tout ça jouent le rôle de gens qui commencent à se poser des questions, qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'on leur impose qu'une machine qui remplace le ciel ce soit cool, et qui veulent tout simplement rendre la lumière et le ciel à la Terre. Et l'une des propositions du jeu, c'est que la campagne officielle conduira, si les héros s'en sortent et jouent comme il faut, entre guillemets, à ce résultat-là. Donc c'est une geste... Voilà, on part d'un petit rôle de petit citoyen dans un empire totalitaire et complètement dominé par aussi bien une machine en acier sortie de nulle part que un gouvernement dictatorial. Et on arrive à sauver la Terre et à briser une coque de métal colossale et incompréhensible. Donc on est sur du Kafka, quelque chose de orwellien au niveau de la société. Mais on est sur aussi des inspirations Clive Barker, aussi bien Homer. Enfin, c'est un projet ambitieux pour les héros, mais ils pourront y arriver.
Oui, enfin que compléter. C'est un jeu dystopique. C'est un jeu dystopique kafkaïen. Là, je vais peut-être plus revenir avec des références, peut-être un peu visuelles pour ou de films ou de séries. Il y a du Dark City, il y a du Hellraiser, parce qu'il y a aussi une composante. Il y a aussi une composante justement occulte. Il y a des secrets derrière ça, parce que au-delà du fait d'être une société qui a été qui est recluse et qui est soumise à une administration qui promeut la survie de l'espèce humaine par la contrainte et par l'obéissance. On a aussi, enfin, cet objet est quand même quelque chose de mystérieux. Il recèle apparemment, il laisse filtrer un mal qui infuse sur Terre, dont on peut se prémunir en respectant opportunément les prescriptions de l'administration. Donc, il y a une menace et il y a tout un volet, surnaturel qui tend vers l'horreur. Donc là, les références, ça va être du Hellraiser, du Silent Hill. On est dans ce genre également d'atmosphère urbaine, poisseuse, et qui confronte autant à l'horreur manifeste de choses qui apparaissent dans les blocs, dans les cités qui menacent la population, que également la noirceur et la maladie qui germe à l'intérieur des cœurs et des âmes des personnes qui sont soumises à l'influence permanente de cet objet, que ça soit psychologique ou une influence plus insidieuse qui, elle, a des justifications in-game. Pour revenir sur l'aspect occulte, c'est vrai qu'était assez peu évoqué dans le kit, parce qu'on voulait en gros faire aussi la surprise, donc c'est vrai que c'était peut-être pas la meilleure manière de pitcher cet aspect-là, mais l'aspect occulte et offre une justification à tous ces partis pris de fonctionnement du setting, même partis pris esthétique, tout s'explique. Et donc d'une part, ça s'insère dans le cadre d'une storyline qui est préétablie et qui va, comme disait Mickaël, vraiment emmener les personnages depuis un statut de simple dissident, des gens qui doutent. Donc on est là pour qu'on va être sur des scénarios un peu gritty, street level, à de la résistance. Là, ils vont prendre leur destin en main, et en disant que non seulement quelque chose va mal dans ce monde, mais ils peuvent faire quelque chose. Donc une résistance plus structurée, où les groupes vont s'organiser dans ce qu'on appelle des cabales. Un troisième niveau qu'on appelle la transcendance, où là les personnages vont toucher du doigt, voire même vont toucher concrètement ce qui se passe dans l'artefact, et qui vont en révéler en comprendre les secrets. Et donc la storyline, elle, va jusqu'à cette compréhension, et c'est une gnose, quoi. C'est une compréhension libératrice, et ils vont atteindre des niveaux de pouvoir qui vont faire basculer le jeu dans quelque chose d'absolument différent et de beaucoup plus épique. Et tout ça est aussi mécaniquement intégré. Il y a un système qui accompagne ça, les règles accompagnent ça. C'est pas juste une promesse, c'est pas uniquement une promesse narrative, il y a aussi du gameplay associé à ces aspects-là. Donc on va passer des atmosphères un peu à la Cronenberg-Lynch, ou Clive Barker, et après on va glisser vers des choses beaucoup plus épiques, où c'est vrai que bon, Matrix est évoqué comme, comme référence aussi dans cette idée un petit peu de poupée gigogne de secrets. Secrets qui, juste je précise, sont, le, sont révélés dès le livre de base. C'est-à-dire que dès qu'on ouvre le livre de base, on sait, enfin le maître de jeu sait absolument ce qui se cache derrière tout ça. Et aussi quelle est la trajectoire de la gamme, à savoir jusqu'où on va aller, comment c'est structuré. Il y a une fin, il y a des fins, mais en tout cas il y a une conclusion à cette aventure, quelle qu'elle soit, mais il y a une conclusion qui est assumée comme étant la fin du parcours des héros, quoi.
On a évoqué un petit peu l'histoire, de quoi ça parle, comment ça se joue, quelles sont les mécaniques en fait de, du jeu?
Alors, derrière cette question, il y a deux réponses possibles. Comment ça se joue ? Alors, premièrement, le jeu, donc l'univers est large, parce que donc on a abordé la présence de la, enfin, l'existence des blocs. À l'extérieur des blocs, il y a un extérieur qui a été un peu abandonné aux ténèbres, mais qui n'est pas complètement vide. À l'intérieur des blocs, il y a toute une structure sociale qui est établie. On a décidé de ne pas faire l'impasse sur l'un des angles d'attaque possibles du jeu en termes de possibilités de gameplay. Et donc, on a développé ces aspects-là sous la forme de petits suppléments qu'on appelle des configurations, qui sont des propositions de qu'est-ce que vous pouvez jouer, en gros, de groupe d'appartenance de PJ. Et donc embarquer sur une configuration permet de changer ce qu'on joue, quel est l'objectif des personnages. Par exemple, dans le livre de base, donc les personnages appartiennent à un groupe qui s'appelle la Cabale d'Ikovienne, qui sont des dissidents non armés qui se posent juste des questions sur l'ordre établi et sur l'État. Mais dès le premier supplément, il y a deux autres configurations qui permettent de rejoindre les rangs de la résistance armée ou des rangs de résistants plus occultes qui ont des informations sur ce qui se passe vraiment. D'autres configurations sont en cours de développement sur la garde noire, donc jouer des flics dans cet univers-là ou jouer la pègre. Donc en fait, mais toutes ces configurations sont livrées avec des propositions pour ramener les personnages sur la trame principale et sur la campagne principale. Donc en fait, il y a plusieurs angles d'attaque, mais qui permettent ensuite quand même de revenir, et ça peut se mélanger aussi d'ailleurs, et de revenir vers l'histoire principale et donc tendre vers le final. Donc ça, c'est un aspect gameplay qui est important. Après, d'un point de vue purement du système, donc avec le système, on a essayé d'émuler l'ambiance, restituer l'ambiance paranoïa qui est d'interdépendance des citoyens à l'intérieur du bloc avec le système de jeu. Très concrètement, les personnages ont un certain nombre de traits qui sont en gros l'équivalent des caractéristiques et compétences, mais c'est lissé. Donc il y a un certain nombre de traits. Ça va de la constitution à la capacité à crocheter ou à faire de la mécanique. Donc à chaque talent, ça s'appelle un talent, à chaque talent un score. Et quand un personnage accomplit une action, s'il a un score suffisant eu égard à la difficulté de cette action, il réussit. Voilà. Il y a, sur le principe, ça peut se jouer en diceless, mais évidemment ça ne s'arrête pas là. Si un joueur veut obtenir plus de succès, c'est-à-dire qu'il n'en a pas assez mais il veut quand même réussir son action, ou il en a déjà assez mais il veut accomplir une action mieux réussie, il peut jeter les dés s'il veut. Donc il peut jeter des dés, donc des dés 10. Chaque dé qui fait 8, 9 ou 10 apporte un succès apporte un talent de plus à sa tentative. Par contre, chaque dé qui fait 1 rajoute une bille de fiel. Le fiel, c'est un liquide noir qui coule de l'artefact dans le contexte et qui est un liquide corrupteur et malsain. Et donc là, chaque dé qui fait 1 rajoute une goutte de fiel dans le bol commun de la table. Et quand un certain nombre de gouttes de fiel sont cumulées dans ce bol, des effets négatifs sont générés, enfin apparaissent, et qui concernent toute la table, tous les personnages. Ce qui crée à la table une tension, puisque quand un joueur voisin commence à jeter les dés pour sauver son personnage ou pour réussir une action qui paraît pas nécessaire, les autres joueurs vont peut-être grincer des dents, parce que ça peut avoir des conséquences directes sur leur propre personnage. Donc ça, c'est la base. Ensuite, effectivement, il y a des jauges de points qui permettent de varier un petit peu les plaisirs, d'obtenir des succès automatiques, mais c'est à la marge. Le cœur du système à la base, c'est ce mécanisme simple de répercussion, on va dire entre guillemets sociale, d'un jet de dés inconsidéré.
Ouais, alors moi j'ai pas contribué au système, donc moi j'ai vraiment un regard de joueur. Ce que je trouvais intéressant, c'était d'une part la fluidité de la réussite automatique. Si on a le score, c'est bon, voilà. Si on veut faire mieux, on prend un risque ou on puise dans des réserves. Donc il y a un aspect de gestion de gestion de réserve. Ça crée une interaction entre les joueurs et joueuses à la table parce que justement il y a une prise de risque qui peut avoir des répercussions sur les autres. Et puis le système est aussi orienté après. Il y a un système qui est finalement une sorte de transposition des règles individuelles mais à l'échelle du groupe, parce que au bout d'un moment les personnages, une fois qu'ils se structurent et qu'ils s'organisent pour entrer en résistance ou en tout cas poursuivre leurs investigations à l'égard de l'administration et de l'artefact, se crée un groupe qui a lui-même son système. C'est un système qui est très proche, enfin qui est vraiment c'est un changement d'échelle par rapport à ce qui se passe pour un personnage, et c'est pareil. Mais il y a cette idée aussi de mutualisation, de concertation au sein du groupe. Le mot d'interdépendance est intéressant parce que c'est vraiment ça comme on le ressent. C'est un système qui permet de se rendre compte de la manière dont répond l'environnement. Parce que quand on parle des jauges et des réserves, il y a aussi on est habitué très classiquement, par exemple, à des points de vie et des points de santé mentale. En gros, notre état psychologique se dégrade ou l'état physique se dégrade. Là, il y a aussi des jauges supplémentaires qui vont traduire aussi le regard, l'hostilité de l'administration. C'est-à-dire, plus on fait des choses suspectes, plus l'administration est susceptible de nous embêter, voire de nous capturer, interroger. Et ça, en fait, c'est une jauge parmi d'autres. Ça fait partie de la manière dont l'environnement répond aux actions, et c'est pas juste personnel, c'est le personnage et le groupe de personnages dans le tissu de l'environnement, le tissu social, et aussi de sa relation à l'artefact. Donc en fait, on fait plus partie. Je trouve qu'avec ce système, on a la sensation de faire partie d'une société avec ses enjeux spécifiques qui sont la vigilance de l'administration. Donc c'est un paramètre, enfin, adapté au fait qu'on joue des gens qui sont en marge de la société et qui s'écartent de plus en plus de la norme, donc qui se mettent en danger. Et également des gens qui sont confrontés à la noirceur, au mystère de l'artefact et à son pouvoir corrupteur. Donc on n'est pas simplement centré sur son personnage et ses propres paramètres, mais on est un personnage et un groupe au sein d'un environnement plus large qui a ses règles et qui sont incluses simplement dans les mécaniques.
Où est-ce que ce sera disponible et quand ce sera disponible ?
Alors ça va être disponible, on espère, à la fin du mois de novembre. On est, comme tout le monde, suspendu au... confronté au risque de problèmes au niveau des impressions, mais pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et ce sera disponible sur notre propre boutique en ligne et dans les boutiques partenaires ou les boutiques qui voudront nous commercialiser. On sera disponible partout où les gens voudront bien de NOC.
Est-ce qu'on peut parler... Alors, j'ai l'impression que le livre de base permet de conclure quelque chose. Est-ce qu'il y aura une suite à cette gamme ?
Absolument. La gamme est conçue de façon très claire sur un livre de base et quatre suppléments au total. Donc un supplément, une campagne, un supplément qui permet de jouer des persos qui ont atteint un certain niveau après la campagne, donc un peu niveau élevé, quoi. Et un supplément final, justement, qui développe les cinq fins possibles qui sont développées dans le jeu, comme disait tout à l'heure Cédric, qui sont présentées dans le jeu, elles seront développées dans ce supplément-là. Et en parallèle de ça, donc, il y a un supplément sur le cadre principal du jeu, qui est la ville de Prague, parce que c'est un point qu'on n'a pas forcément abordé, mais tout ça se passe en Bohême, en Europe de l'Est, avec Prague comme capitale. Et donc au-delà de ces suppléments majeurs qui constituent la trame, l'ossature de la gamme, d'autres suppléments parallèles apparaîtront pour traiter des sujets comme l'extérieur, comme des recueils de suppléments, enfin des recueils de scénarios et de configurations, ce genre de choses. Mais en embarquant dans Notes, on sait que la substantifique moelle, c'est quatre suppléments et un livre de base.
Est-ce qu'on peut parler éventuellement de vos projets à vous pour l'avenir, en dehors de Nox ?
Alors, On a d'autres projets au niveau jeu de rôle, on a des projets au niveau 7 messes, hein. On a des projets aussi pas mal en termes de jeux de plateau, et notamment des jeux de plateau qui utilisent nos univers comme notes, comme cadre. Donc ça viendra l'année prochaine. Et élément aussi important, Aventure dans le monde intérieur, qui est une gamme, donc qui était la gamme que je développais précédemment chez la boîte à polpette et chez les ludopathes, dont j'ai récupéré les droits et qui maintenant donc, est édité chez cette messe, qui est une gamme qui a dormi à cause de divers problèmes pendant très longtemps, mais qui donc va se réveiller l'année prochaine avec l'édition la sortie d'un nouveau supplément. Supplément qui sera, entre parenthèses, offert à tous les souscripteurs de l'Almanach Arcadien 3. Donc il y a eu une opération de crowdfunding qui a eu quelques problèmes techniques il y a quelques années. Et finalement, les souscripteurs n'avaient pas été livrés. Et donc nous allons reprendre le développement de la gamme l'année prochaine et raccrocher les wagons avec ces gens qui avaient souscrit, qui avaient montré leur intérêt pour Aventure dans l'intérieur et qui avaient été un peu, ou pas un peu d'ailleurs, déçu.
Et la question finale, si vous deviez en quelques mots inviter quelqu'un à acheter Nox plutôt qu'un autre jeu, comment ?
Sous la contrainte, si on peut avoir de l'outillage. Sinon, c'est un jeu. C'est une question délicate. C'est un jeu qui propose une trajectoire. C'est un jeu qui propose donc c'est un univers. Déjà, il faut aimer les univers sombres, il faut aimer les univers adultes. Dans cette catégorie-là, donc l'offre existe, elle est assez riche. Note, c'est un mélange entre un monde noir, un petit peu science-fiction, mais avec des repères qu'on retrouve. C'est un monde à secret, c'est une expérience puisque donc c'est aussi une storyline et ça promet aux joueurs de partir d'un certain statut et d'arriver jusqu'au bout. Donc c'est une campagne dans la catégorie des jeux d'horreur et des jeux d'ambiance. J'ai l'impression, alors c'est pas, je sais pas, j'ai pas mené une analyse, c'est pas du tout, j'ai l'impression que le statut de victime ou de personnage qui subit les événements est plutôt la tendance. Dans Notes, on fait le pari inverse, c'est-à-dire ce sont des gens qui au début subissent mais au final deviennent acteurs et deviennent triomphants. Donc c'est un jeu qui est noir mais qui tend vers la lumière et qui permet de devenir vraiment les héros du monde. Alors bon, c'est un peu galvaudé dans certains types de jeux, dans le médiéval fantastique par exemple, ça se trouve quoi. Mais dans les jeux d'horreur, dans les jeux contemporains ou affiliés, j'ai l'impression que c'est moins fréquent que ça. On peut dire que je ne sais pas présenter Notes en compétition avec les autres jeux, mais c'est parce que je ne veux pas manquer de respect à d'autres jeux que j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que tu vas faire ça très bien.
Ouais, pitcher, enfin, parler Notes. Si on aime les univers urbains, poisseux, avec une touche rétro-futuriste, si on aime ce qu'on disait tout à l'heure, Lynch, Cronenberg, si on a aimé Brazil, Dark City, je pense qu'on peut se retrouver, dans Notes. Si on aime lutter contre l'oppression administrative et puis que en fait derrière on découvre qu'il y a des secrets, qu'on aime les secrets et que ces secrets sont pas simplement du décorum mais font partie de révélations imbriquées les unes dans les autres dont on est assuré qu'on va finir par les découvrir. Je pense que ça peut. Faut jeter un coup d'œil sur Notes. Ouais.
C'était les auteurs de Noc, disponible très prochainement auprès de l'éditeur 7 messes. Bienvenue dans cette nouvelle émission des Voix du Scénarium. J'espère que vous passez toujours un bon moment et que vous avez pris plaisir à écouter les 4 épisodes des voix qui correspondaient au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Ce soir, nous allons passer à un autre jeu, un jeu qui se nomme Tales from the Loop, qui est publié chez Arcane Asylum. C'est un jeu assez particulier, puisque les joueurs vont jouer des enfants dans un monde qui correspond à des années 80, mais tel que nous ne les avons pas connus. Laissez-moi vous expliquer un petit peu plus. Ces années 80 sont basées sur les œuvres d'un artiste suédois qui s'appelle Simon Stålenhag. Le principe des œuvres de cet artiste, ce sont des années 80, mais avec de la technologie, avec des robots, avec des choses qui ne sont pas de notre monde, des avancées technologiques qui ne sont pas de notre monde. Ces œuvres ayant assez bien marché, elles ont été éditées dans des recueils sur lesquels vous pouvez trouver la peinture numérique d'un côté et un texte d'accompagnement sur la droite ou la gauche. Ça dépend comment l'album est fait, est fourni. Et Free Alligan, un éditeur suédois, a décidé de créer un jeu de rôle basé sur les travaux de Simon Stålenhag. Ce jeu de rôle sont en deux. Ces jeux de rôle sont en deux séries. Il y a Tales from the Loop, auquel nous allons jouer tout à l'heure, qui correspond à peu près à nos années 80. Et Things from the Flood, qui garde la même continuité mais qui lui correspond aux années 90 et qui sont plus sombres. Le postulat est assez simple. Autour des îles du lac Mälar, des îles en Suède, a été créé un accélérateur de particules qui est souterrain sous les îles, et ce loop, comme il est appelé, puisque ça forme une grosse boucle, fournit de l'énergie et surtout des emplois à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes dans la région. Et il permet aussi à des scientifiques de créer toutes sortes de choses et d'expérimenter toutes sortes de choses dans le loop lui-même, créant, par conséquent, des effets assez étranges à l'extérieur. Mais c'est pas ça qui va être intéressant, puisque nous allons jouer des enfants dans leur quotidien. Des enfants qui vont trouver tout et plein de choses pour être prétexte à des aventures. Par exemple, je sais pas, un monstre qui dit... des copains qui parlent d'un monstre, et ben le monstre peut devenir une aventure. Il y aura une explication qui sera tout à fait logique. Il y aura des mystères qui seront tout à fait logiques pour les enfants, mais lorsqu'ils en parleront avec des adultes, eh ben, ce sera rien de particulier. Et les adultes auront toujours tendance à considérer les aventures des enfants comme des affabulations, comme des aventures d'enfants. C'est donc un jeu de rôle de science-fiction, mais qui n'a pas pour thème la science-fiction, mais les enfants. Alors, on pourra se rapprocher, bien sûr, des Goonies ou de Stranger Things pour jouer, puisque c'était tout à fait la thématique qui sera développée dans le jeu. Le système de jeu de Tales from the Loop, c'est un système de jeu qui a été développé par Free Alligan, si je ne me trompe pas, et qui a été réadapté à pas mal de jeux. Il a été adapté à Alien, le jeu de rôle, à Tales from the Loop, bien sûr, à Things from the Flood, avec quelques variations, et puis à Forbidden Lands, par exemple, ou à Mutant Year Zero, si je ne me trompe pas, qui utilisent tous ce système de jeu plutôt simple. Alors plutôt simple, oui, mais en fonction des jeux il y a des variations, mais pour Tales from the Loop le jeu est assez simple. Vous prenez la compétence dont vous avez besoin, vous y ajoutez la caractéristique, vous jetez le nombre de dés qui correspond, ce sont des D6. Si vous faites un 6, la compétence est réussie, enfin le jet est réussi. Si vous avez besoin de plus de jets, c'est que la réussite est difficile ou que c'est une réussite on va dire conjointe, et là tous les joueurs vont pouvoir tenter de faire des réussites ensemble. Et il faut savoir que quand vous avez plusieurs 6 sur des sur des jets un peu plus compliqués, vous pouvez avoir des effets bonus qui vont vous permettre de filer un petit coup de main à vos copains. Donc voici pour Tales from the Loop, je vous laisse découvrir la partie avec les voix de ce soir. Pendant que nous installons le monde et chauffons le scénarium, ou l'inverse, nous vous invitons à une légère pause musicale avec Geronimo de Doofchi, avec Nadia Nair. Pourquoi j'ai choisi ce morceau ? Puisque c'est un morceau qui a été, dont le clip a été réalisé par Simon Stalenag. Donc, allez le voir. Si pour les prochaines fois, je mettrai sans doute de la musique des années 80 pour être dans l'ambiance. Nous sommes dans les voies du scénarium, nous allons jouer à Tales from the Loop. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc, Julie, Cyril et Thierry qui vont nous présenter rapidement leurs personnages et se présenter pour que vous puissiez identifier leur voix. Marc, tu veux commencer ?
Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Stéphane Boissec. Je suis un petit garçon de 12 ans. Un petit, c'est vite dit, puisqu'en fait, je suis un peu une force de la nature. Du haut de mon 1m65 et de mes 60 kilos, je suis véritablement impressionnant. Je suis surtout un rebelle.
Ok. Julie ?
Donc moi, je m'appelle Justine Geneste, j'ai 13 ans. Je suis petite pour mon âge. Je dépasse à peine les 1m40. Pour 40 kilos. Je suis pas très grande, je suis toute fine, mais surtout en fait,
trafic de drogue.
Non, quand même pas. Ça pourrait pas à cet âge-là, mais surtout dans le côté très gothique, très sombre. Je suis une petite fille un petit peu solitaire, donc je suis brune avec les cheveux longs, très blanche et des cernes de 3 pieds de long. Je dors peu la nuit.
Cyril ?
Je suis Louis Ménard, donc je suis le plus jeune et je vis un peu isolé puisque mon père coupe du bois dans la forêt, enfin coupait, ça dépend des moments selon le travail qu'il y a, et on vit un peu isolé, donc en fait je suis très proche de mon chien Wolf, et c'est mon meilleur ami, et mais j'essaye de rencontrer d'autres gens, d'autres enfants, et je m'intéresse à plein de à ce qui peut se passer en ville. Il y a plein de choses bizarres. En plus, j'aime bien tout ce qui est machines, réparer des trucs. Donc voilà.
Et Thierry.
Bien, mon personnage se nomme Nils Janton. Je suis un métalleux, tout ce qui est de plus classique, de 13 ans, les cheveux longs, très noirs, pas très grand, peut-être 1m45 pour l'instant. Par contre, je suis d'une grande fidélité envers mes compagnons, mes amis, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. J'en ai peu parce que j'ai du mal à m'en faire, mais quand je m'en fais, je me fais de vrais amis, quoi. Et mon endroit préféré dans la vie, c'est le magasin de musique.
Et du coup, cette ville, c'est la ville d'Aurora, une petite ville située à proximité de la Suisse, dans le Jura, une ville située juste au-dessus du réacteur de l'accélérateur EPR, qui a été surnommé affectueusement le Loop, qui donne son nom au jeu. Une petite ville d'à peu près 5000 habitants, dans laquelle nos quatre enfants évoluent. Et c'est leur matinée du lundi avant de partir à l'école. Comment vivent-ils cette matinée dans leurs différentes familles ? Marc, tu veux commencer ?
Eh bien, allons-y. Eh bien, moi, je me suis levé beaucoup tous les matins, tranquillement dans mon coin. Mon père est sûrement en train de cuver encore. J'y prête même pas attention. Mon grand frère, Richard, a sûrement préparé le petit-déj, une fois de plus. Il s'occupe de ma chieuse de petite sœur. Mais j'ai même pas envie d'affronter ça. Je reste dans mon coin, je prends ma douche, j'enfile vite fait mon vieux t-shirt et mon jean. Et j'ai qu'une envie, c'est de retrouver mes potes. Donc je prends mon sac et je file en direction de l'école, en espérant retrouver mes amis sur le chemin.
Ok. Julie ?
Eh bien moi, comme tous les matins, que ce soit la semaine ou le week-end, je suis seule chez moi puisque mes parents sont déjà au travail. Du coup, je suis seule devant mon bol de céréales avec un livre. J'ai pas envie du tout de commencer cette nouvelle semaine qui va être vraiment compliquée pour moi à l'école, même si j'ai quand même envie de voir mes amis, mais vraiment, ce matin, je traîne les pieds. J'ai pas envie d'aller à l'école.
Ok. Cyril ?
Alors, je me suis levé tôt, parce que chez moi, on se lève tôt. Là je suis en train de terminer le petit déj, mais il y a Wolf qui râle parce qu'il a envie d'aller faire pipi, et donc c'est l'heure de sa sortie. Donc je me dépêche vite fait, je vérifie que tout est bien à sa place, que l'assiette de papa est bien à la place habituelle, qu'il n'y a pas de chaises qui sont mal placées ou d'objets qui traînent, et je file directement à l'école, et j'ai hâte de retrouver les autres enfants.
Voilà. Ok. Et Thierry ?
Bien, comme tous les matins, les jours d'école, papa est parti, maman me prépare le petit déjeuner. Moi, je suis dans la cuisine, en t-shirt, pieds nus. Je me dépêche de prendre le petit déjeuner. Et comme d'habitude, je me dépêche d'enfiler mes chaussures, de choper au vol mon cartable, parce que le bus va arriver et que je suis toujours en retard. Et j'ai envie de la voir cette fois-ci et d'arrêter d'arriver à pied à l'école.
Alors, vous venez d'arriver à la petite école de... J'ai perdu son nom, pas de bol.
D'Aurorville.
L'école ouais. D'Aurorville, mais c'est l'école... Non, attendez, 13 ans. Toi, t'es...
10 ans.
Ouais.
Primaire.
T'es encore à l'école élémentaire.
En 6e.
Élémentaire.
J'ai peut-être sauté une classe.
Ouais, très certainement. Donc, vous êtes au collège René Barjavel.
T'as 10 ans, t'es en 6e.
Et du coup, les cours commencent à s'enchaîner. Ce sont pas forcément des choses qui sont très très marrantes. Vous avez des cours de français. Vas-y, je t'écoute, Ciel.
Dans la présentation, t'as dit Aurora au lieu d'Aurorville.
Donc, si pardon. Pas ce sera la ville d'Aurorville, oui.
D'accord,
pardon.
Non, mais c'était pour que tu te cales sur un truc.
C'est Aurorville, c'est moi qui me suis planté. Auroraville.
C'est pareil, tout ça.
Donc vous êtes au collège et les matières commencent à s'enchaîner, et puis vous remarquez qu'il manque une élève que vous connaissez déjà. Donc techniquement, il y en a qui ont dû sauter une ou deux classes. Comme ça, vous êtes tous dans la même classe, ça m'arrange un petit peu. Hein, c'est pratique. Et il manque une élève. Est-ce que vous savez comment elle s'appelle ?
C'est pas la petite Fanny ? C'est une de tes copines, Justine, non ?
Mais non, elle s'appelle Claire.
Claire ? Ah bon ? Ouais,
je crois.
Fanny, c'est
après,
sa grande sœur.
Je suis pas très proche des filles.
Ouais, enfin, c'est des filles, quoi.
Ouais. Mais elle est sympa, celle-là. Elle est hyper forte en course.
Elle est un peu pas pareille que les autres.
Okay. Mais c'est bizarre qu'elle soit pas là.
Effectivement, c'est étrange, elle n'avait jamais raté un cours, mais bon, ça arrive des fois, des enfants malades, bon, il n'y a pas forcément de mort d'homme, on va dire. On ne vous annonce pas hein, pourquoi elle n'est pas là, mais elle est absente. Et la journée se passe, vous enchaînez cours de mathématiques, cours de français, cours de sciences... Et puis, bon, la journée se termine, vous avez passé une bonne journée à faire vos relations habituelles et vos travaux scolaires. Et le soir, vous avez, par habitude, comme vous êtes un petit groupe qui se connaissent bien, vous avez certainement pas forcément toujours les mêmes amitiés, mais vous avez l'habitude de vous retrouver dans votre petit repère, qui est une sorte de petite cabane qui a été construite par des enfants il y a certainement quelques années, et qui est situé sur des branches d'arbres en lisière de la forêt qui se situe en bord de la ville, pas très loin d'une maison que tout le monde, que tous les enfants du coin savent absolument hanter. Donc en règle générale, quand vous avez fini votre journée d'école, vous vous dirigez vers cette petite cabane pour y glander un petit peu et échanger sur vos journées, parler de vos nouveautés et vous sociabiliser en fait. En chemin, vous remarquez des petites ombres sur le côté, une petite ombre à un moment. Vous apprêtez à tourner après la droguerie du coin et y a une espèce de petite ombre dans un coin. Est-ce que vous pouvez me faire un jet de découverte ? Donc, le concept, c'est vous ajouter votre score de compétence à l'attribut qui correspond. Vous lancez le nombre de dés qui correspond. Si vous avez fait un 6, vous avez réussi votre jet.
Eh bien, c'est raté pour moi.
Pour moi également.
Et finissez tout.
Effectivement,
ça relève le niveau.
Moi, j'étais en train de mettre des cassettes dans mon radiocassette, c'est pour ça. Effectivement, t'étais en train de changer de cassette. Louis et... non, pas Louis.
Si
Louis et Stéphane, ils étaient en train de discuter de la journée. Ils ont certainement eu beaucoup de mal avec Madame Gousset.
Ouais, de toute façon, elle n'arrête pas de m'embêter, celle-là.
Il faut dire que t'as redoublé deux fois, quand même.
Même pas vrai.
Non, mais bon. Hein.
Trois.
T'as quand même pas des très bonnes notes non plus.
Bah ouais, mais en même temps, ça m'embête, ces histoires.
Mais en même temps, tu seras un peu plus attentif aussi.
Bon ouais, mais ça m'intéresse pas, alors.
C'est de la science, c'est hyper bien. Pff,
n'importe quoi.
Mais si, l'électricité, tout ça, ça fait marcher les machines.
Ouais, si on faisait un cours sur Alien, au moins, ça serait vachement simple, plus sympa.
Ah ouais, ça serait trop cool.
Ouais.
Ouais, j'avoue. Et pendant que vous discutez de tout ça, Justine remarque du coin de l'œil cette petite silhouette. C'est au départ, t'as cru que c'était un chien qui était en train de ramasser un truc dans une poubelle, et en fait, tu t'es rendu compte qu'effectivement, c'était quelque chose qui ramassait dans une poubelle, mais ça ressemblait à une petite unité mécanique, une sorte de petit robot, vaguement de forme vaguement humanoïde, presque format petit singe en fait. Mais techniquement, c'est des robots que tu as déjà vus, mais que tu vois pas forcément par là. Donc, ça t'a un petit peu intrigué. Bon, c'est passé. Puis vous êtes continué, vous êtes reparti directement jusqu'à la cabane. Et arrivé à cette cabane, vous commencez à discuter des différentes choses que vous avez pu entendre dans la journée. Et il y a une rumeur qui est revenue régulièrement dans la journée sur la cour de récréation. C'est celle d'une créature qui aura été vue dans les bois. Une grande créature.
Ouais, trop bien.
Il y a des enfants qui sont partis, qui ont l'impression d'avoir une silhouette, mais allez, presque deux fois plus grande qu'un adulte.
Waouh.
Imagine, c'est le Predator.
Ah ouais. Et ça serait bien qu'on le rencontre.
Ah ouais.
Et on le verra pas, il est invisible.
Il aura peut-être Schwarzenegger avec lui.
Oh. Et puis ça se trouve, c'est même un alien. Moi, je veux pas le rencontrer. Hein.
Ouais, mais si on regardait de loin, juste comme ça, pour observer, quoi.
Ah ouais, ça, ce serait cool.
Et puis il y en a des sympas, regarde, E.T.
Ouais.
Ouais, mais il fait pas.
Mais il est pas grand.
Ouais, c'est ça. Il est tout petit.
Ah, quand il s'allonge son cou, peut-être.
Ah, c'est un peu petit quand même.
Ouais, on pourrait. De toute façon, on peut y aller. Il y a Wolf, il nous protégera.
Ouais, on va faire un tour dans les bois. Ouais. Là, ça se trouve, on va tomber dessus.
Ouais, c'est trop cool.
Puis au pire, il y a Stéphane, il est très grand. Il nous protégera.
Ah, bah ça, c'est sûr.
Ouais.
Vas-y, j'ai une super musique pour ça, vas-y.
Ah, c'est quoi ta musique?
Tu m'emmerdes.
On sait pas, mais elle est super.
Non, si, un vieux morceau de Metallica, un peu dépressif, un peu effrayant. Call of Cthulhu, tiens.
Ah, je sais pas si c'était sorti à cette époque.
Je suis pas sûr que c'est de cette époque.
Je crois pas.
Mais bon, tu changes la cassette, tu sais, tu recherches, t'appuies sur ton bouton pour accélérer.
Tu retombes
deux fois, voilà.
Je prends un crayon.
Vous partez avec
le bouton.
La musique qui commence à monter et vous commencez à vous enfoncer dans les bois. Wolf t'accompagne pas à l'école en règle générale, mais il t'attend. À la cabane le soir, et du coup il est avec vous, il vous accompagne. Donc Wolf, il est comment un petit peu? Tu peux me le décrire? Alors,
c'est un berger allemand.
Ok.
Il a le même âge que moi. Mes parents l'ont pris. Et en fait, quand j'ai perdu ma maman, c'est vraiment mon chien, c'est devenu quelqu'un de très important pour moi parce que c'était aussi le chien de ma maman. Donc voilà. Donc c'est mon meilleur ami, je raconte tout parce que mon papa il travaille beaucoup et puis. C'est un papa quoi, donc il comprend pas tout. Alors que Wolf il comprend tout et puis en plus il me protège parce que je suis pas très grand. Donc...
T'en as de la chance d'avoir un chien comme ça.
Ben ouais, je sais, mais c'est parce que nous on vit à la campagne, pas en ville, alors forcément c'est plus facile.
Et puis en plus il est trop mignon.
Ouais, c'est vrai.
Il est toujours content quand il nous voit.
Ben oui, tout le temps. Ouais. Il aime tout le monde, Wolf.
Moi j'aime bien
sauf
ses
les
dents.
Méchants. Les méchants ils les aiment pas.
Moi j'aime bien ses dents.
Tu touches pas aux dents de mon chien. Il te mordrait.
Après, il va te mordre et on pourra pas aller à la chasse aux monstres.
Non, mais elles sont belles. Elles doivent faire des belles morsures.
C'est une force de chance. Et vous commencez à vous enfoncer dans le bois qui est derrière. Alors, au début, c'est assez clairsemé. Il y a pas mal de distance entre les arbres. Par contre, c'est vachement sombre. Il y a un tapis d'arbres, un couvert qui est assez prononcé. Et puis petit à petit, vous commencez à avancer et les troncs se resserrent. C'est plutôt géré de manière un petit peu classique dans le bois. Et ce sont des arbres qui sont vraiment droits. Il n'y a pas beaucoup de trucs type sapin, de résineux. On est plutôt sur des bois un peu plus secs, un peu ouais. Et vous commencez à avancer. Vous regardez un petit peu partout. Et vous allez pouvoir me refaire un jet de découverte. On va essayer de pas faire trop de jets, mais je trouve que ça peut être plus important sur ce genre de réussite.
J'ai oublié de le préciser. Wolf est très curieux. En fait, dès qu'il y a quelque chose, faut qu'il aille voir. C'est d'ailleurs un peu un problème.
Bon, c'est réussi pour ce qui me concerne.
Ok.
Pour moi aussi.
Bah, on a tous réussi, j'ai l'impression.
Ok, ça y est, t'avais réussi aussi ?
Ouais. On est trop trop fort.
Oh, okay. Quand on a plus de 1-6, ça donne des bonus, ça donne rien du tout ?
Pas dans situations normales. Dans les situations de stress ou les situations avec des challenges à dépasser, il faut atteindre parfois 2 voire 3 réussites pour pouvoir réussir.
D'accord.
Au fur et à mesure que vous progressez, au départ, vous vous rendez compte qu'il y a assez peu d'animaux. Et puis, plus vous progressez, plus vous vous rendez compte que la forêt commence à s'animer autour de vous. Basiquement, t'as fini par laisser la cassette s'éteindre, t'as baissé le son instinctivement pour pouvoir profiter peut-être un petit peu plus de la forêt. Et vous remarquez qu'il y a des petits animaux qui commencent à se déplacer un petit peu en hauteur. Alors c'est pas des oiseaux, et il y a effectivement des espèces de petites créatures que vous distinguez à distance. Un groupe de 2 ou 3 créatures que vous n'identifiez pas forcément.
Plutôt volante ou plutôt grimpante?
Plutôt grimpante. Elles ont l'air de passer d'arbre en arbre. Mais vous savez que dans le coin, il n'y a pas vraiment de singe. Il n'y a pas vraiment de... C'est pas le bon endroit pour voir des animaux de ce type-là.
Et c'est un peu gros pour des écureuils, quoi.
Ouais, c'est un petit peu gros pour des écureuils. Ça fait la taille de 2-3 écureuils.
Ah oui, quand même.
Mais ça fait pas
les
beaucoup
chats,
de bruit. Ouais.
Enfin...
Format d'un chat, ouais, ça peut. Alors, vous savez qu'il y a des animaux qui ne sont pas des grimpeurs, en fait, qui sont dans le coin. Il y a eu une réintroduction de petits lynx qui ont défrayé la chronique il y a de ça un petit moment. Voilà. Vous savez que vous pouvez tomber face à des lynx, il y a des loups. Mais les lynx, effectivement, ils ont cette capacité de passer d'arbre en arbre. comme des chats, du coup.
D'accord.
Vas-y, je te t'as l'air d'avoir une autre question.
Je réfléchissais, mais je...
Mais vous promenez un petit peu, vous regardez. Effectivement, c'est... Justine se dit que ça ressemble quand même pas mal à la bestiole qu'elle a pu voir en termes de gabarit. Mais là, c'est situé dans l'ombre, c'est... T'es pas sûr, en fait, que ce soit la même chose.
D'accord.
Et puis, au fur et à mesure que vous avancez, vous finissez par arriver sur une espèce de petite clairière avec une cabane au milieu. Une cabane en bois plutôt solide avec des vitres. C'est la cabane, visiblement, du garde-chasse. Laissons tranquille les voix pour ce soir, avec cette arrivée à la cabane du garde-chasse. C'est un épisode un petit peu plus court, vous l'avez noté. Cette partie sera divisée en 4 parties.